Merci Jean-Noël. Si vous le voulez bien, nous allons commencer en priant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, Père des pauvres, viens illuminer nos intelligences et nos cœurs pour nous mener à la vérité tout entière. Amen. Qui invoque-t-on au séminaire? Notre-Dame de l'Immaculée Conception, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc merci Jean-Noël, merci à tous ceux qui sont présents. D'abord à son Excellence, Mgr Dominique Ray, tous les pères, tous ceux que je ne connais point. Je salue particulièrement ma maman qui habite ici dans ce diocèse, hein, Sainte-Maxime. Voilà, toujours très heureux de venir ici, c'est chargé de souvenirs, sans parler même de l'odeur tellement agréable quand je descends du TGV à Toulon. Vivant à Paris, c'est vrai que l'odeur est un peu différente, mais ce n'est pas la seule différence. Alors, c'est avec joie que j'ai accepté de venir parler un petit peu. Je ne sais plus exactement le titre, c'est quel... Vous m'entendez ou vous m'entendez mal? Ça résonne, d'accord. C'est toujours une question inutile, parce que ceux qui n'entendent pas ne peuvent pas répondre à la question, hein. Ceux qui sont au fond. C'est donc, quelle proposition de la foi pour quelle société chrétienne, hein. Quand notre pape François a accepté de répondre à ce long interview pour les revues jésuites, c'était le père Spadaro de la Civiltà Cattolica qui l'a écouté et qui l'a interrogé, à un moment la question a été posée de savoir, première fois dans l'histoire que nous avons un pape jésuite, qu'est-ce qu'un pape jésuite peut apporter aujourd'hui à l'Église, en tant qu'il est la spiritualité ignatienne? La réponse a tenu en un mot, le discernement. Le génie pratique de saint Ignace, c'est d'apporter un discernement entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Et m'inscrivant un peu dans ce sillage, quel discernement pour aujourd'hui? Je vous proposerai une démarche en quatre étapes. Premier temps, un peu quel modèle de société? Quel est un petit peu le cœur de ce qui habite notre société occidentale aujourd'hui? Deuxièmement, j'irai un petit peu plus loin, mais je ne serai pas trop long parce que ce sera peut-être un peu trop difficile. Rechercherai un petit peu quelle est l'essence même de ce qui est vécu. Dans une troisième étape, je verrai une fausse sortie des problèmes posés aujourd'hui pour quatrièmement proposer une issue. Vous voyez, c'est un plan quasiment médical, hein, entre un diagnostic, mauvais remède et bon remède. Qu'est-ce qui caractérise un petit peu le fond de notre société actuelle? Il y a différentes propositions. Moi, je vous ferai la proposition suivante. Il me semble, et pas mal d'observateurs, je pense par exemple à Gilles Lipovetsky ou d'autres, disent la société actuelle, une société de l'hyperconsommation. Pas seulement de la consommation, ce qu'on a connu, il distingue Lipovetsky, différentes étapes, mais aujourd'hui, ce qui nous caractérise, c'est le fait que tout est devenu consommable. Qu'est-ce que c'est que l'hyperconsommation? Scène de la vie quotidienne. Personne, notamment célibataire, mais aussi non célibataire, rentre dans son appartement ou dans sa maison, ouvre le frigidaire, prend une canette, ferme délicatement la porte du frigidaire, c'est l'équivalent d'une bénédicité, consomme et jette. Prendre, consommer et jeter. Trois actes fondamentaux qui n'ont rien à voir avec le fait de recevoir, intérioriser et donner, qui sont les trois gestes fondamentaux. Je ne sais pas quel était le texte de la liturgie que vous avez eu aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui samedi, il y avait cette parole en Matthieu 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et avec ce passé qui signifie bien qu'il n'y a pas deux temps mais trois temps. Recevoir, conserver et donner. Donc là, les trois gestes de l'hyperconsommation ne sont pas évidemment tout à fait parallèles. Ce qui caractérise, je le répète, notre société, c'est que cette hyperconsommation, donc ces trois gestes-là, se retrouvent partout. Bien évidemment, dans le domaine matériel, ça vaut pour la nourriture. Autrefois, quand le pouvoir d'achat était un peu plus important, 40% des achats dans une grande surface se faisaient de façon immédiate, sans prévision. Selon un petit peu, donc on prenait ce qui se proposait en tête de console. Maintenant, c'est un petit peu moins, mais uniquement parce que les moyens ne sont pas au niveau des désirs. Donc cela vaut pour les biens matériels. On se rend compte que cela vaut aussi pour les biens culturels. De plus en plus aujourd'hui, on consomme, pardon, on consomme du voyage. Récemment, quelqu'un qui était responsable d'une agence de voyage me disait que autrefois, on préparait les voyages, notamment intercontinentaux dans d'autres mondes, 3 mois, 6 mois à l'avance. Il dit aujourd'hui, de plus en plus de personnes viennent, demandent un voyage, je ne sais pas moi, en Thaïlande ou en Patagonie, 2 semaines à l'avance. Donc on prépare peu. Et de fait, d'ailleurs, ce que l'on a peu préparé, ce que l'on a peu désiré, déçoit peu. Une espèce de tiédeur mortelle, comme disait Conrad Lorenz. Donc on va consommer du culturel, et puis si ce n'est pas ça, ce sera un produit de substitution. Non seulement on consomme du culturel, on consomme aussi, c'est encore plus nouveau, de la relation. Au point même que la relation elle-même devient vraiment un produit de substitution. Les jeunes, par exemple, aujourd'hui, ils vont, je ne sais pas, peut-être que c'est un vocabulaire que vous ne connaissez pas encore, hein, ils vont choper dans une soirée. Moi, j'ai découvert ce mot-là, choper ou pécho, hein, ce qui veut dire embrasser autant de personnes que l'on pourra et plus si affinité, compte tenu de surcroît que l'alcool permet de dissoudre la vertu de tempérance, hein. La chasteté se dissout dans l'alcool. Donc, on va consommer de la relation, on va consommer de l'amitié. Dans les grandes villes, on va avoir même plusieurs soirées dans une même soirée. Et finalement, ce qui va être important, en effet, c'est de pouvoir multiplier les plaisirs. Donc, même la relation y passe. J'ai même entendu des personnes me dire, finalement, on se sépare dans un couple marié tant que cela va bien. Donc on va multiplier les personnes en s'arrangeant pour qu'il y ait une espèce de maximisation de la jouissance. Et encore plus étonnant, on en arrive même aujourd'hui à consommer du spirituel. C'est-à-dire que l'on va chercher des spiritualités qui nous conviennent et on changera en fonction, là encore, du seuil de jouissance que l'on veut obtenir. Pour donner un exemple concret, je me souviens une fois en paroisse, quand j'étais en paroisse à Sainte-Trinité à Paris, c'était la fin de l'adoration, à midi, la messe commençait à 12h10. Tout à coup, je vois qu'à la fin de l'adoration, il y avait une personne qui était assise dans l'axe même du Saint-Sacrement en lotus. Intéressant, je m'approche de la personne, je lui dis, vous savez, il va y avoir la messe. Et en plus, elle avait un Walkman sur les oreilles, donc vous voyez, très très présente et très attentive, hein. Et donc la personne qui était là, je m'approche, je lui dis, vous savez, il va y avoir la messe, peut-être que c'est pas tout à fait l'endroit pour pouvoir rester. Je dis, vous savez, mais c'est un endroit extraordinaire. Ici, il y a une concentration que je n'ai jamais vue d'ondes positives. Je suis très ravi d'apprendre ça d'ailleurs, hein, ce jour-là. Et donc, là encore, on consommait du christianisme parce que ça apportait des choses, mais si un autre lieu était un lieu chargé d'ondes positives, on serait allé dans cet autre lieu. Donc vous voyez que ce schéma de la consommation, et on va jeter quand on n'en a plus besoin, est un schéma qui désormais remplit tout. Je pense, il me vient un exemple, c'est un jeune homme de l'Arkansas, donc aux États-Unis, qui avait proposé, avait offert, une offrande tout à fait ouverte, disait, j'offre mon front à l'entreprise qui voudra le louer. Et de fait, son front avait été loué, l'entreprise avait non pas, heureusement, ce n'est pas tatoué, mais avait posé un décalcomanie pour un produit contre contre l'insomnie, qui avait duré pendant 1 mois. Oh, la raison était tout à fait légitime, vous savez qu'aux États-Unis les études coûtent cher, c'était pour pouvoir payer ses études. Mais de fait, il avait utilisé son corps comme un produit qu'on peut consommer et qu'on va ajouter pendant un certain temps. Donc vous voyez que tout y passe. Derrière cette logique du « je prends, je consomme, je jette », il y a une logique profonde qui est une logique que j'évoquais en passant, de la maximisation du plaisir. C'est-à-dire que notre société est une société du plaisir maximum. Mes exemples datent, mais je pense qu'ils sont toujours actualisables en publicité. Par exemple, il y a quelques années, on voyait un enfant qui était sorti du sein maternel sur une grande affiche et qui disait « Né pour s'amuser », qui n'a pas entendu « Toblerone, le triangle du plaisir hein, » ou « Extrême de Gervais, les goûts et les bonheurs », etc. Donc, on voit bien que l'homo consumericus est un homme qui va chercher à multiplier les lieux de plaisir. Or, on sait bien que si on veut une vie plaisante, hédonique, il faut d'abord renouveler en permanence, les plaisirs s'épuisent. Et deuxièmement, c'est plus subtil mais très important, il y a un moment où il faut comme découpler l'objet du plaisir lui-même. Ça, c'est la logique la plus profonde de l'hédonisme. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et de fait, on voit bien que ce qui importe, ce n'est pas l'objet lui-même, c'est le plaisir qu'on peut trouver. Et plus que cela, comme l'objet finalement s'épuise, il faut absolument changer d'objet, donc finalement ce qu'on va garder, c'est le plaisir lui-même. Oh, c'est pas nouveau cela. Ça a été découvert il y a déjà bien longtemps, par la Rome antique au moment de sa décadence, c'est ce qu'on appelle, excusez-moi du mot, le vomitorium. Cette logique de découplage entre l'objet et le plaisir, c'est la logique du vomitorium. Qu'est-ce que faisaient les Romains? Savaient bien qu'il y a quand même des effets secondaires à l'orgie permanente, ne serait-ce que l'obésité qui devient au bout d'un moment un petit peu imposante. Donc finalement, on se fait vomir régulièrement pour avoir le plaisir lié à la nourriture sans avoir la nourriture elle-même. Cette logique de découplage, qui est la logique du vomitorium, s'applique dans tous les domaines. Ultimement, là encore, ça peut paraître choquant de le dire, mais c'est tellement vrai, la contraception telle qu'elle est utilisée, donc pour des raisons non médicales, et c'est une logique du vomitorium. Je veux avoir le plaisir sexuel sans avoir sa signification profonde qui est l'union et la procréation. Et c'est pareil pour le religieux. Ce que l'on veut, c'est pouvoir trouver. Au fond, vous savez, le New Age, cette espèce de nébuleuse qu'est le New Age, c'est avoir tous les avantages du religieux, c'est-à-dire la joie même du pardon, etc., mais sans véritablement poser l'acte. Parce que de fait, il y a des procédures qu'on peut trouver dans telle ou telle même technique qui permettent de pardonner, etc., mais on le fait tant qu'on y trouve du plaisir. Et tant que, quand on n'y trouve plus de plaisir, on arrête de pardonner. Donc on voit bien que la finalité est tournée vers soi et vers le plaisir qu'on peut ressentir. Donc vous voyez que dans cette logique d'hyperconsommation, ce qui compte, c'est ce plaisir, avec comme conséquence, premièrement, petit à petit, une espèce de virtualisation de l'objet. Donc on va une disparition même de l'autre. Je dis, on va changer d'amis, on va changer de... Voilà. Tant qu'on peut trouver du plaisir. Et puis, ce que l'on observe aussi, c'est une virtualisation du sujet lui-même, un effacement de la personne. Une des conséquences les plus délétères de cette logique de l'hyperconsommation, c'est que l'hyperconsommateur devient dépendant du plaisir. Il vit dans une temporalité très particulière qui fait qu'il est obligé lui-même, de plus en plus contraint à user et abuser. Et là, c'est mon cœur de pasteur qui parle et qui se sert en même temps. Une des choses qui me frappe le plus après 13 ans de vie romaine revenant à Paris, dans la confession et dans les confidences reçues, c'est de découvrir que nous avons affaire à un monde où il y a de plus en plus d'addictions et de dépendances. La nouveauté, elle est de plusieurs types. D'abord, de plus en plus de personnes sont prises par... Quand j'ai de plus en plus de personnes, autrefois, à l'époque des paradis artificiels de M. Baudelaire, seule une couche très très aristocratique de la société était touchée par le vermouth et par les différents types de drogues qu'on connaissait à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde est touché. Non seulement tout le monde, mais toutes les tranches d'âge. Je pense à une confidence d'une religieuse de 84 ans me disant qu'elle passait 5 heures par jour sur Internet, à des jeux de cartes. Et votre travail, oh, je le fais un peu vite. Et de fait, les addictions sont extraordinairement chronophages et c'est son devoir d'État qui passait à la trappe. En général, les addictions sont un peu moins nobles. Ce que l'on voit donc, c'est qu'on voit donc une extension maximale, mais on voit aussi, du côté des personnes qui pratiquent, mais on voit aussi une extension maximale du point de vue des objets. Parce qu'autrefois, on était addict à des drogues, aujourd'hui, on est addict aussi à des comportements. Comportements compulsifs, d'achat, le travail, addiction aussi, on le sait bien, à Internet, au portable, porno-dépendance, etc. Et c'est caché, vous savez que le premier temps qui manifeste que l'on est dépendant, c'est reconnaître que l'on est, mais il faut du temps, parce que comme il y a toujours des périodes de sobriété, on ne le perçoit pas tout de suite. Or, cette addiction détruit la liberté, autrement dit, détruit ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain. Les personnes qui sont atteintes de dépendance ont une estime d'elles-mêmes très basse. Donc nous voyons que les conséquences de cette société d'hyperconsommation qui promettait le bonheur, c'est l'effacement, la disparition et du monde et du sujet lui-même qui est au monde. Si nous cherchons à aller un peu plus loin, donc ça c'était le premier temps, et j'ai conscience qu'on pourrait le développer encore beaucoup plus, comment, deuxième temps, en sommes-nous arrivés là ? Deuxième étape donc de la réflexion. On peut toujours remonter très loin. Je pense qu'il est quand même toujours intéressant de remonter à l'orée même de notre modernité. C'est toujours bien de dire qu'on remonte à Monsieur Descartes, notre vaillant petit cavalier français dont parlait Peggy. De fait, il y a une parole qui, même si on ne l'a pas lue, marque beaucoup notre Occident. Dans la sixième partie du discours de la méthode, il dit « L'homme est comme maître et possesseur de la nature ». Là se produit une espèce de césure importante dans notre histoire. Tout à coup, le rapport à la nature ne sera plus un rapport de contemplation, d'utilisation respectueuse, mais un rapport de domination. C'est vrai que René Descartes dit « comme maître et possesseur ». À l'époque où il le dit, il n'a pas les moyens de ses projets. Ce n'est que les siècles qui vont suivre que petit à petit on va se rendre compte que l'être humain va vivre dans cette domination à l'égard de la nature hors de lui et petit à petit la nature en lui. Donc, nous voyons apparaître donc cette espèce de primat de la domination. Rappelez-vous, dans le Faust de Goethe, cette parole tellement importante qui est un plagiat de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était l'action. Pas le verbe par lequel je reçois, non, au commencement était l'action. Un moment très précis qui est le moment où justement Méphistophélès va apparaître. Et donc on voit bien qu'il y a quelque chose de diabolique à mettre l'action de l'homme en premier. Donc l'action de l'homme va désormais le caractériser dans notre modernité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui prend de plus en plus de place, c'est le travail. On promettait d'avoir de moins en moins de travail. De fait, on en a, sauf ceux qui malheureusement souffrent de ne pas en avoir. Avec cette espèce de bipôle qui structure nos vies. Entre d'un côté le travail et de l'autre côté la détente. Et la détente malheureusement qui nous fait perdre de vue le cœur même de notre vie qui n'est pas la détente, qui est le loisir au sens grec du terme, la scolaie, qui est ce moment de gratuité par lequel non seulement nous rencontrons Dieu, mais aussi nous rencontrons Dieu et nous avons aussi un certain nombre d'activités gratuites, culturelles, etc. Donc aujourd'hui, nous voyons un homme qui est pris et tendu par son travail et qui occupe son temps libre à se détendre de cette tension. Alors que le sens même du Shabbat, ce n'est pas la détente, c'est s'étant détendu de pouvoir s'occuper à gratuitement ce qui est la finalité même de l'homme, à savoir être ordonné à Dieu. Je fais un rêve, I have a dream. Si je fais un rêve, je rêverais que nos week-ends soient de vraies fins de semaine où il y ait le samedi qui soit là pour nous détendre et le dimanche soit vraiment un jour pour ces activités de gratuité. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans le code de droit canonique, ces deux facettes sont présentes. Et notamment, donc, dans cette journée, ce vrai Shabbat, qui serait un temps tourné vers Dieu, un temps tourné vers la famille, un temps, je le répète, aussi tourné vers les activités gratuites. Et je sais qu'ici, dans ce diocèse, nous sommes sensibles, vous êtes sensibles à ces activités culturelles par lesquelles sont honorés le vrai, le bien et le beau. Donc, nous voyons donc cet homme qui, petit à petit, en est arrivé donc à tellement valoriser cette part hein, de maîtrise et de mainmise. Et là, je pense à un grand écrit d'un de nos plus grands philosophes du XXe siècle, Martin Heidegger, qui en 1953 a fait une conférence très connue qui s'appelle « Le problème de la technique », où il va dire, finalement, le problème de fond de notre monde d'aujourd'hui, c'est que la technique en arrive à manipuler la nature et à faire violence à l'homme. Il va prendre l'exemple, lui qui habite l'Allemagne, philosophe allemand, mort en 1976. Aujourd'hui, quand je regarde le fleuve qui fait la gloire de l'Allemagne, qui est le Rhin, je vois une centrale électrique. Et cette centrale électrique, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle consomme de l'énergie et finalement elle réduit la nature à du consommable. Alors que la vocation même de l'homme, c'est de garder la nature. Et donc, dit-il, notre technique aujourd'hui n'est plus au service ni de l'homme ni de la nature, mais elle est là pour asservir, comme il dit, pour arraisonner, Gestell. Et donc, Heidegger posera ce diagnostic, il dira, mais finalement, avec la technique, nous avons oublié, alors lui, philosophe athée, dit-il, l'être, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin. Derrière l'être, ce que nous avons oublié, c'est le don même qu'est l'être. Et je vais y revenir tout à l'heure. Donc, Heidegger va faire ce diagnostic tellement important en disant que l'homme d'aujourd'hui est un amnésique. Il ne voit plus. Et c'est vrai. Quel est celui d'entre nous qui n'a pas un jour tempêté contre le TGV, contre son portable ? Et quel est celui d'entre nous qui n'est pas amnésique des extraordinaires capacités que la technique peut avoir parce qu'elle se fonde sur la nature. Allez, je vais faire un petit peu mon Bernardin de Saint-Pierre pendant une seconde. La Terre a un rayon en superficie de 20 000 km. Les ondes électromagnétiques se propagent à un peu moins de 300 000 km par seconde. Quelle merveille qui permet à chacun de nous de joindre en permanence n'importe qui, ou plutôt des personnes chères, sur l'autre bout de la planète. Est-ce que nous savons nous réjouir ? Nous savons, surtout nous les Français, les grincheux, les Gaulois bien, hein, qui savons bien où se péter, est-ce que nous savons honorer, moi tout à l'heure, j'ai pu arriver en 4 heures de Paris, moi 4 heures, c'est vrai, une petite demi-heure, hein, parce que des gens se promenaient sur le bord de la voie. T'avais raison Jean-Noël, c'est vrai que le TGV peut toujours arriver en retard. Mais est-ce que nous savons nous réjouir de cette nature présente derrière cette technique qui l'emploie à son service. Et donc, dit-il, nous sommes devenus amnésiques. Mais le diagnostic de Martin Heidegger ne va pas assez loin. C'est pas seulement la perte du don, c'est la perte du donateur dans le don. Nous ne savons plus reconnaître le donateur qui nous fait présent de ce don. Troisième pas. Quand j'ai dit cela, une voie, une issue se présente à nous. Donc face à cette hyperconsommation dont on se rend compte que finalement elle ne tient pas ses promesses, est une promesse déçue, comme disait Claudel, et donc qui nous conduit à cette espèce de vide, il y a une voie aujourd'hui alternative qui est une grande tentation pour nous. Et je suis très frappé de cela. Certes, nous voyons l'importance du défi de l'agnosticisme, nous voyons l'importance du défi que pose l'islam. Si j'étais prophète, je dirais qu'il y a un défi pour moi encore plus grand et qui va devenir de plus en plus majeur pour les décennies qui viennent. C'est le défi de la bouddhisation. L'Orient, le bouddhisme sont une tentation bien plus profonde que nous ne le croyons. Je vais vous l'illustrer de deux manières en insistant sur la première. Donc, proposer une fausse bonne solution à ce problème de l'hyperconsommation, je pense à un auteur allemand, et je m'assois parce que je vais lire un passage de ce qu'il a écrit, Ulrich Leonhard Tolle, qui est plus connu sous le... il s'est donné ce nom-là, de Eckhart Tolle, qui a un succès extraordinaire. Ces deux ouvrages doivent totaliser plus de 10 millions d'exemplaires. Il a lui-même formé des millions de personnes de par le monde. Et notamment, l'ouvrage le plus connu, c'est The Power of Now. Le pouvoir de l'instant présent. Ce qui nous évoque des choses à nous, les chrétiens. Il fonde ce qu'il va nous dire, ce que je vais vous expliciter en quelques mots, sur une expérience. Il dit la chose suivante. Donc, jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai vécu dans un état presque continuel d'anxiété ponctuée de périodes de dépression suicidaire. Une nuit, et c'est ça l'épisode décisif, peu après mon 29e anniversaire, je me réveillais aux petites heures avec une sensation de terreur absolue. Il m'était souvent arrivé de sortir du sommeil en ayant une telle sensation, mais cette fois-ci, c'était plus intense que cela n'avait jamais été. Le silence nocturne, les contours estompés des meubles dans la pièce obscure, le bruit lointain d'un train, tout me semblait si étrange, si hostile et si totalement insignifiant que cela créait en moi un profond dégoût du monde. Mais ce qui me répugnait le plus en tout cela, c'était ma propre existence. À quoi bon continuer à vivre avec un tel fardeau de misère? Pourquoi poursuivre cette lutte? En moi, je sentais qu'un profond désir d'annihilation, de ne plus exister, prenait largement le pas sur la pulsion instinctive de survivre. Je ne peux plus vivre avec moi-même. Cette pensée me revenait sans cesse à l'esprit. Puis soudain, je réalisais à quel point elle était bizarre. Suis-je un ou deux? Si je ne réussis pas à vivre avec moi-même, c'est qu'il doit y avoir deux moi, le je et le moi, avec qui le je ne peut pas vivre. Peut-être qu'un seul de ces deux est réel, pensais-je. Cette prise de conscience étrange me frappa tellement que mon esprit cessa de fonctionner. J'étais totalement conscient, mais il n'y avait aucune pensée dans ma tête. Puis je me sentis aspiré par ce qui me sembla être un vortex d'énergie. Au début, le mouvement était lent, puis il s'accéléra. Une peur intense me saisit et mon corps se mit à trembler. J'entendis les mots « ne résiste à rien », comme s'ils étaient prononcés dans ma poitrine. Je me sentis aspiré par le vide. J'avais l'impression que ce vide était en moi plutôt qu'à l'extérieur. Soudain, toute peur s'évanouit et je me laissais tomber dans ce vide. Je n'ai aucun souvenir de ce qui se passa par la suite. Puis les pépiments d'un oiseau devant la fenêtre me réveillèrent. Je n'avais jamais entendu un tel son auparavant. Derrière mes paupières encore closes, ce son prit la forme d'un précieux diamant. Oui, si un diamant pouvait émettre un son, c'est ce à quoi il ressemblait. J'ouvris les yeux. Les premières lueurs de l'aube fusaient à travers les rideaux. Sans l'intermédiaire d'aucune pensée, je sus que la lumière est infiniment plus que ce que nous réalisons. Cette douce luminosité filtrée par les rideaux était l'amour lui-même. Les larmes montèrent aux yeux. Je me levai et me mis à marcher dans la pièce. Je la reconnus et pourtant je sus que je ne l'avais jamais vraiment vue auparavant. Tout était frais et comme neuf, un peu comme si tout venait d'être mis au monde. Je ramassais quelques objets, un crayon, une bouteille vide, et m'émerveillais devant la beauté et la vitalité de tout ce qui se trouvait autour de moi. L'exemple est un peu long, mais il nous est si peu familier que ce n'était pas inutile. J'en tire plusieurs choses. D'abord, l'expérience d'un dégoût du monde et de sa propre existence. Deuxièmement, une dissociation du « je » et du « moi ». Troisièmement, un arrêt de la pensée, ce qu'il appellera plutôt le « mental », dans un vide qui abolit toute peur. Et enfin, une espèce d'émerveillement devant le chant d'oiseaux, le miracle de la vie sur la terre. Là, on a une expérience qui va le conduire directement à ce qu'il croit lui être original. D'ailleurs, excusez du peu, sur le quatrième de couverture de son livre, il est dit que « autrefois il y a eu Bouddha ». Après ça, il y a eu Jésus, et aujourd'hui arrive Eckhart Tolle. Voilà, bonne nouvelle, si vous ne le saviez pas. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Quelque chose de très important qui est une véritable tentation pour nous. Ayant fait l'expérience de la vanité, au sens étymologique du terme, vanité, ça vient du latin vanum, le vide, il va dire, mais finalement, ce faux plein de la société d'hyperconsommation doit être remplacé par un vrai vide assumé, non pas un vide subi, un vrai vide assumé. Et finalement, va-t-il dire, là encore diagnostic, ce qui est mauvais, ce sont les pensées. par les pensées. Je regrette le passé et je crains le futur. Donc, éliminons les pensées et réduisons-nous à la seule chose qui existe, à savoir the power of now, le pouvoir de l'instant présent. Ne vivre que dans le présent. Rien à voir avec ce que la petite Thérèse nous dit. Parce que ce présent dont parle la petite Thérèse, elle est riche d'un passé, elle s'arrime à une promesse et ouvre à un avenir. Donc, on va voir une espèce de mystique du vide extrêmement tentante qui nous est proposée là. Donc, c'était ce premier exemple. Donc, avec tout ce qu'il y a derrière comme espèce de d'exténuation des choses, du réel, pour ne plus vivre qu'avec soi-même, dans une espèce de jouissance du soi, avec des relations qui seront ce qu'elles sont, mais qui peuvent elles aussi passer, donc là encore avec une espèce de virtualisation, mais là désormais totalement assumée. Deuxième exemple, vient de paraître un ouvrage à grand succès de Mathieu Ricard, qui s'appelle « Plaidoyer pour l'altruisme ». Ce gros livre, 900 pages, n'est pas un grand livre. Je l'ai lu pour vous, donc ne prenez pas le temps de le lire. Il y a, c'est vrai, 100 pages de notes avec 1500 études qui sont assez passionnantes. Qu'est-ce qu'il nous dit ? En deux mots, il nous dit « Le drame à nous, les Occidentaux, vous vous rappelez qui est Mathieu Ricard, hein, Mathieu Ricard, donc, qui est ce scientifique, fils de Jean-François Revel, qui est parti dans un monastère tibétain, qui est là-bas connu une longue initiation liée à la méditation, et qui revient, aujourd'hui le bouddhisme est prosélyte, et qui revient en Europe pour nous apporter véritablement la bonne nouvelle, avec le Dalai Lama derrière. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle ? C'est, diagnostic, l'Occident souffre d'individualisme et de violence. Le bouddhisme vient vous apporter le remède, à savoir l'altruisme, qui est le nom de l'amour. Donc, en effet, c'est vrai que c'est quand même heureux que quelqu'un vienne nous rappeler en Occident que depuis 20 siècles, on n'a pas entendu parler de l'amour. C'est en effet quelque chose d'assez nouveau. Mais ce livre-là, en effet, réussit la prouesse, alors qu'il nous parle de l'Occident, en ces 900 pages, de ne jamais nous parler du Christ. Il évoque à deux ou trois reprises telle ou telle figure chrétienne en deux ou trois lignes, notamment Maximilien Kolbe. Par contre, on a le droit de longues tartines sur ce nombre de maîtres méditants bouddhistes qui, eux, vivent véritablement cette bienveillance universelle. Ce livre-là est un livre qui est très lu, en plus qu'il ne coûte que 23 euros pour sa grosse taille. Il est partout présent dans un nombre de librairies, même un nombre de revues catholiques, on en fait une publicité très très encourageante, très incitative. Et apparemment, il y a d'avoir une convergence très profonde avec notre foi chrétienne, puisque l'on dit bien que le remède de toute chose, c'est le christianisme. À quel prix ? Certes, on nous parle d'amour, mais de quel amour nous parle-t-on ? Il y a une distinction, un petit peu subtile, mais qui est au cœur du livre. La distinction entre compassion et empathie. Mathieu Ricard nous dit que la compassion est la dimension affective de l'amour. Or, la dimension affective fait que l'on va souffrir. Si je commence à ressentir de l'amour pour quelqu'un, tôt ou tard, je souffrirai de ressentir cet amour. Donc, ce qu'il faut, c'est vivre la dimension effective de l'amour, à savoir la compassion, sans la dimension affective, à savoir l'empathie. Autrement dit, en un mot, le bouddhisme est une religion-philosophie de l'amputation, en l'occurrence l'amputation de ma sensibilité, alors que le christianisme est une religion de la purification. On n'a rien à abandonner dans le christianisme. Par contre, tout à être purifié en étant tourné vers le bon Dieu. Et donc, subtilement, apparemment, le discours est le même, mais en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que notre cœur humain et incarné n'a plus à battre pour l'autre. Je vous rappelle que dans la si belle encyclique de Pie XII sur le cœur de Jésus de 1956, Auritis Aquas, il est dit que l'amour, qui est, le cœur, pardon, qui est le symbole même de l'amour, est triple, à savoir l'amour divin, par laquelle Jésus comme Dieu nous aime, son amour humain volontaire par lequel il nous choisit et nous porte toute sa bienveillance, mais troisièmement aussi son amour sensible par lequel il nous aime. Et en pensant à ce que j'allais vous dire, d'un coup il m'est revenu un passage du premier roman de Victor Hugo, qui est moins connu que le fameux Notre-Dame de Paris, mais où il y a ce petit passage que je trouve bien intéressant. Vous vous rappelez, c'est un plaidoyer contre la peine de mort. Ça a toujours été un homme très, très prosélyte que notre grand français. Or, que je vous retrouve ce passage, oui, dans le dernier jour d'un condamné. Hein. Donc on voit cet homme qui va être condamné et arrive dans sa cellule un prêtre. Ça nous intéresse. Ici, dans ce lieu, nous formons de futurs prêtres. « Que m'a-t-il dit ce vieillard ?» dit le condamné. Rien de senti, rien d'attendri, rien de pleuré, rien d'arraché de l'âme, rien qui vint de son cœur pour aller au mien, rien qui fut de lui à moi, au contraire, je ne sais quoi de vague, d'inaccentué, d'applicable à tout et à tous. Ah, qu'on m'aille donc, au lieu de cela, chercher quelque jeune vicaire, quelque vieux curé, et qu'on lui dise, il y a un homme qui va mourir, et il faut que ce soit vous qui le consoliez. Il faut que vous soyez là quand on lui liera les mains, là quand on lui coupera les cheveux, que vous traversiez avec lui l'horrible foule buveuse de sang, que vous l'embrassiez au pied de l'échafaud, et que vous restiez là jusqu'à ce que la tête soit ici et le corps là. Alors qu'on me l'amène tout palpitant, tout frissonnant de la tête aux pieds, qu'on me jette entre ses bras, ses genoux, et il pleurera, et nous pleurerons, et il sera éloquent, et je serai consolé, et mon cœur se dégonflera dans le sien, et il prendra mon âme, et je prendrai son Dieu. Pas très bouddhiste cela, mes amis, mais qu'est-ce que c'est profondément chrétien, et qu'est-ce que cela rejoint notre humanité. Donc, voilà cette tentation aujourd'hui, véritable tentation, que nous connaissons tous. Nous savons bien, mes amis, que lorsque nous avons mal, nous sommes intelligents. Le meilleur moyen, quand on a mal, pour moins souffrir, c'est de moins s'ouvrir. La tentation du bouddhisme, elle est là. C'est pour ça qu'elle ne concerne pas que tout ce lieu de la non-dualité qu'est l'Orient. Elle concerne toute personne qui, ayant trop souffert d'avoir trop consommé et de s'être finalement trompé de ce faux plein, va finalement tomber dans cet illusoire vide qui ne remplit rien du tout. Je vais plus loin. Cette tentation bouddhiste, elle nous concerne aussi au plan économique. Je vois aujourd'hui des chrétiens qui sont attirés par, contre le modèle de la croissance exponentielle et totalement irresponsable qu'est la nôtre, c'est bien entendu, mais va proposer une croissance zéro, club de Rome de 72, ou bien une décroissance. Non. D'abord, anthropologiquement, c'est illusoire. L'être humain est un être d'initiative permanente. Et en plus, c'est profondément contraire à ce que la Bible nous a appris. Croissez et multipliez-vous. Qu'il faille le faire avec sobriété et en n'oubliant pas d'abord de croître au niveau spirituel, bien évidemment. Mais là se trouve, là agit cette tentation bouddhisante qui est la nôtre et qui n'est que réactive. Donc, mes amis, donc, nous voyons donc notre société, il y a cette espèce de biface. Nous sommes finalement, vous voyez, entre ces deux domaines. Ça serait trop unilatéral et trop simpliste de se dire qu'il y a d'un côté le modèle de l'hyperconsommation qui fait l'enfeu, qui finalement attriste ceux qui la pratiquent, et de l'autre côté, donc, le modèle un peu bouddhisant orientaliste. Certes, il y a ces deux modèles, mais ces deux modèles eux-mêmes ne portent pour aucun d'entre eux le bonheur de l'homme. Derrière ces deux modèles, allons plus loin. Je ne serai pas long, mais regardez bien. Derrière le modèle de l'hyperconsommation, il y a finalement l'homme auteur de lui-même. Finalement, c'est un modèle athée. C'est l'homme qui, quand on dit au commencement était l'action, l'homme s'adore lui-même, adore ses œuvres. Le modèle qui est derrière ce paradigme orientaliste, c'est celui du panthéisme et du monisme. Finalement, l'homme oscille entre il n'y a pas de Dieu ou tout est Dieu. Et le fond du New Age, c'est faire croire qu'au fond de l'homme, il y a l'essence même de Dieu. La solution n'est ni dans l'athéisme, ni dans le panthéisme, mais dans le monothéisme, qui fait que l'homme est créature. Et quatrième partie, je voudrais donc maintenant proposer une voie parmi d'autres qui est au cœur même de notre christianisme, et je la résumerai en une parole que je vais décliner, une des plus belles paroles de la langue française, la reconnaissance. Dans reconnaissance, j'entends trois choses. J'entends d'abord une connaissance. D'un coup, je suis en train de me dire, Jean-Noël, j'espère que tu veilles sur l'heure hein, pour que je ne dépasse pas. Donc, on se donne encore 10 minutes, hein, on va dire. Et donc, premièrement, reconnaître, c'est d'abord prendre conscience. Et prendre conscience que nous pactisons tous avec un de ces deux modèles. On a tous une pente. Tous une pente, soit vers le modèle un peu plus occidental, soit vers le modèle orientaliste. Moi, je me suis bien surpris quand je suis venu à Rome, qui aimait beaucoup le cinéma. Bon, c'était toute une liturgie d'aller au cinéma. J'y allais avec des amis. Puis, donc, vous savez, il y a toute la liturgie de la salle obscure, vous savez, là, aujourd'hui un petit peu moins avec les pop-corn à côté. Hein. Et après ça, avec les amis, on se préparait plusieurs jours à l'avance, hein, on choisissait notre film. Et après ça, quand on sortait du cinéma, hein, il y avait quelques règles d'or. Hein. Parler du film, ne parler que du film. Et si on parle d'un autre film, c'est en relation avec le film. Donc ça, c'est ce que j'y vais quand j'étais à Paris. Puis je suis parti à Rome, et là, c'est vrai que je connaissais moins de personnes, il y a quand même moins de salles qu'à Paris, surtout des films américains. En plus, ma connaissance de l'italien, notamment au point de départ, ne me permettait pas tellement de goûter les subtilités. Bref, je suis passé du film au DVD. Et en découvrant le DVD, ben, j'ai découvert ce que c'était que la consommation. J'ai découvert que finalement, on voit un DVD pour se détendre, mais on n'honore plus le film comme film, avec tout ce que ça suppose comme génie. Alors, ça dépend bien évidemment des films. Hein. Mais en tout cas, tout à coup, j'ai découvert que ce bien qui était un film était devenu pour moi un objet de consommation. Vous voyez, le passage du bien objectif qui était donné à un simple instrument qui me comblait. Donc, prendre conscience que nous sommes tous traversés par ça. Je me rappelle encore une personne droguée que j'avais croisée au bistrot du curé à Paris qui m'avait dit, mais mon père, il a pris le yaourt qui était devant moi, il a dit, vous savez, on peut devenir dépendant même d'un yaourt. Tout simplement que moi je connais des personnes qui en effet sont dépendantes de la charge de calcium qu'il y a dans le yaourt. Donc, où sont nos dépendances? Et puis derrière cela, plus profondément, en termes bibliques, où sont nos idoles? Baudelaire, que je citais tout à l'heure, a bien raison quand il parle de paradis artificiel. Dans la Bible, on sait bien qu'il n'y a pas d'incroyants. La ligne de partage n'est pas entre les croyants et les incroyants, mais entre les adorateurs du vrai Dieu et les idolâtres. Mes amis, quelles sont les idoles que nous adorons? C'est même des idoles très subtiles. Des parents peuvent adorer leurs enfants, c'est-à-dire tout attendre d'eux, ou des conjoints aussi adorer leurs conjoints. On peut devenir dépendant de tout, et malheureusement, pas du vrai Dieu, parce que le vrai Dieu lui-même ne rend jamais dépendant, ce qui est très mystérieux. Pourquoi? Je serais prêt à y répondre s'il y a une question, mais là je ne peux pas détailler. Donc, le péché, donc prendre conscience du péché, le péché consiste à prétendre avoir un droit sur les êtres. La logique de l'hyperconsommation, c'est une logique de la prise. Je prétends avoir un droit sur ce qui m'entoure. D'ailleurs, c'est pas seulement un acte de prise, c'est un acte d'arrachement. Non seulement on prend les choses, mais on les arrache. Je suis à la fois frappé et attristé de voir dans notre campagne française que ceux qui devraient la garder au mieux, les agriculteurs, ont souvent une attitude prédatrice, destructrice. On arrache les choses. Et quand on arrache, on se coupe même de la source. Donc, prendre conscience du péché, c'est prendre conscience que j'ai tendance à prendre au lieu de recevoir et d'attendre. Qu'il est intéressant et révélateur de comparer cet acte de prise avec ce qui nous est dit dans l'hymne aux Philippiens. Jésus ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. En fait, si on regarde le terme grec, c'est pas ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, c'est ne retint pas comme une proie. Ne retint pas comme une proie. Et il y a là derrière un mot grec qu'on ne trouve qu'une seule fois cité, un mot plutôt rare dans l'écriture, arpagmos, qui est donné arpagon. Et vous rappelez ce que arpagon, l'avare de Molière, dit. Il est tellement avare qu'il ne vous dit pas je vous donne le bonjour, mais je vous prête le bonjour. Et de fait, ne sachant pas donner, il ne sait pas recevoir, il ne fait que prendre. D'ailleurs, le dernier mot de la pièce de Molière, c'est « Allons revoir ma chère Cassette ». Donc la logique la plus profonde qui est là est une logique donc de prise, et je prétends avoir un droit. Est-ce qu'il faut illustrer ça? Vous savez bien qu'aujourd'hui, j'ai le droit d'avoir un enfant quand je veux, avec qui je veux, de quelque nature que ce soit, sinon je l'élimine. Je prends ou je jette. Je peux avoir aussi l'identité sexuelle que je veux, quand je veux, et j'en change quand je veux. Le fantasme de Judith Butler, qui a écrit les fameuses études sur le genre, hein, troubles dans le genre, c'est le fantasme du travesti. C'est-à-dire, je change quand je veux. Et donc, à chaque fois, je saisis, je prends. Où est-ce que dans ma vie, je suis dans cette logique de prise? Ou si vous préférez la traduction temporelle, de « je prends », c'est « je suis impatient ». L'impatience. L'impatience, disait le grand saint Irénée de Lyon, est le péché de nos premiers parents. Ce n'est pas l'orgueil, comme dira saint Augustin. Ou plutôt, est-ce que subtilement, il n'y a pas derrière toute impatience un orgueil? Je me rappelle ce que disait un théologien allemand au nom italien, Romano Guardini. Il disait que la patience est une vertu toute divine. C'est quoi la patience? C'est d'accepter que le tempo de l'autre ne soit pas le mien. Donc, ultimement, le temps de l'autre soit mesuré par Dieu et non pas par moi. C'est pour cela qu'en 1 Corinthiens 13, verset 4, la première qualité de la charité après la serviabilité, c'est la patience. Nous mesurons notre charité, notre amour divin en nous, par notre capacité à rendre service, et comme dit saint Thomas d'Aquin dans le très beau commentaire qu'il dit, par le fait que rendant service, j'accomplis tous les biens, et par le fait que, étant patient, je supporte tous les maux. Et ainsi, tous les actes de la charité sont inclus. Donc, reconnaître ce qu'il y a en nous comme mainmise et comme impatience. Ça serait le premier chemin que je vous propose. Deuxième, continuons à décliner ce si beau mot de reconnaissance. Donc j'ai dit d'abord, dans reconnaissance, il y a connaissance, prendre conscience. Deuxièmement, reconnaître. Dans reconnaître, il y a d'abord prendre conscience. Prendre conscience, mais une prendre conscience qui est redoublée. Donc ce n'est pas seulement la prise de conscience du mal dont on vient de parler, c'est cette prise de conscience redoublée. Au fond, ce qui est important dans nos vies, on ne le connaît jamais, on ne fait que le reconnaître. Nous sommes toujours en retard sur les dons qui nous sont faits. Je répète ce que je viens de dire. Nous sommes toujours en retard sur les dons qui nous sont faits. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Rappelez-vous, hein, cette parole des pèlerins d'Emmaüs. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Nous ne savons pas quand l'amour naît dans notre cœur. C'est après qu'on en prend conscience, c'est a posteriori. La femme ne sait qu'après qu'elle a reçu en elle ce germe de vie. Tout ce qui est grand en nous nous précède, et heureusement. Donc, comment arriver à prendre conscience? Je vous propose une petite démarche. Nous avons vu que l'homme de l'hyperconsommation est l'homme qui a transformé le réel en objet de consommation. Moi, je vous propose de redécouvrir que caché, comme disait Heidegger, caché derrière ces objets, il y a un bien et plus profondément encore un don. Je vais raconter une petite histoire vécue. Je tire d'un ouvrage. Un jeune moine ne cessait sur le chemin de la sagesse de progresser. Un jour, pourtant, une pensée vint prendre place dans son esprit à l'exclusion de toutes les autres. Manger l'un de ces gâteaux dont il se régalait enfant qu'une petite boutique située en contrebas du monastère propose depuis peu aux passants. Il secouait la tête, mais elle y adhérait. L'effort même pour n'y penser plus la lui rendait présente. Il prit la résolution d'en parler à son maître spirituel. Afin d'en épuiser le fantasme, sachant que la réalité déçoit toujours l'imagination, celui-ci lui donna une pièce et l'invita à descendre à la boutique. Je n'ai pas les coordonnées de ce maître spirituel. Le moine se régala, il fut débarrassé de l'obsédante pensée. Un temps seulement. Quelques jours plus tard, il fut rendu à sa gourmandise. La torture qu'il endura n'en fut que plus forte. La saveur de ses gâteaux lui revenait en rêve comme au travail. Piteux, coupable, honteux, il revint voir son supérieur. Celui-ci prit le temps de la réflexion, puis lui conseilla ceci. Retournez acheter un de ces gâteaux. Le manger de nouveau, à ceci près que cette fois, il devra s'appliquer à le goûter pleinement, à remercier Dieu pour chacune de ses saveurs et pour les mains qui l'ont fait. Le moine fut libéré. C'est un peu commode. Il y a quelque chose de très profond là-dedans. Découvrir que derrière le don, il y a le donateur. Qu'est-ce que c'est important? Je vais insister un petit peu là-dessus. Surtout avec un pape qui s'appelle François. Comment ne pas se rappeler que le génie le plus profond de François d'Assise, c'est ce que dit son grand hagiographe Saint Bonaventure, François d'Assise voyait toute chose, quand il regardait la nature, toute chose comme sortant des mains de Dieu. Ce qui caractérise le regard de François, c'est pour ça qu'il était si sensible à la fraternité universelle, c'est que quand il voyait les choses, il voyait d'abord qu'elles étaient données. Alors déclinons cela de plusieurs manières pour que ce soit un peu concret. Donc, vous voyez, pour rentrer dans la gratuité, pour sortir de la consommation, il nous faut découvrir que finalement derrière tout objet, toute personne, tout événement, il y a une main qui est tendue et qui nous l'offre. D'abord le don de la nature. Le don de la nature. S'arrêter pour se réjouir. Moi, c'est une chose que j'ai pris le temps de découvrir. Moi, quand je sortais dans la rue, j'avais pris le réflexe de me mettre la main dans ma poche et de dire mon chapelet. Bon, je ne pense pas que ce soit une habitude qui soit tellement pécamineuse. Il n'empêche que c'était devenu tellement automatique que je n'étais plus présent aux autres. Une des choses que je découvre à Paris dans le métro, c'est que sur 100 personnes dans une rame, quasiment personne n'est présent aux autres. Une de mes joies, moi, quand je suis dans le métro, c'est d'abord de m'arrêter, de regarder. À ce moment-là, quand j'ai bien regardé, je prends mon chapelet et je prie pour la personne la plus désespérée de la rame, que je ne connais pas. Mais d'abord, être présent à ceux qui sont là. Avant de commencer à dire mon chapelet, regardez, comme disait Est-il Soum, tant qu'il y aura un bout de ciel bleu, il y a de l'espérance. Et c'est vrai que ça dit tellement de choses. L'homme, seul animal vertical qui peut regarder le ciel et qui peut voir cette espérance. Donc redécouvrir cela. Et puis je vous citais un petit passage de Mère Teresa. On dit que Mère Teresa, écrit-elle, dégrade les gens car elle leur donne les choses gratuitement. Une fois, au séminaire, au nom de tout le groupe, une sœur se leva et me dit « Mère Teresa, vous êtes en train de dégrader les pauvres en leur donnant tout gratuitement. Ils perdent leur dignité humaine. Vous devez au moins exiger une somme symbolique pour ce que vous leur donnez, ainsi ils se rendront compte de leur dignité humaine. » Lorsqu'elle eut terminé de parler, je répondis calmement « Personne n'a été plus dégradé que le Seigneur lui-même. Pensez au don merveilleux qu'il nous a donné gratuitement. Ici, personne ne porte de lunettes, pourtant vous pouvez tout voir. Certes, si Dieu voulait être payé pour vos soupirs, qu'arriverait-il ? Nous dépensons beaucoup d'argent dans notre chiche ou bavane pour acheter de l'oxygène pour sauver des vies, mais nous respirons sans cesse et nous vivons avec l'oxygène et nous n'avons rien payé pour cela. Que se passerait-il si Dieu disait « Tu travailles 4 heures et tu recevras la lumière du soleil pour 2 heures. Combien d'entre vous pourraient survivre ?» Est-ce que nous savons nous étonner, nous qui devons respirer au minimum 6 à 10 fois par minute, de cet air qui vient des fins fonds du monde et qui va baigner les 60 000 milliards de cellules de notre organisme pour lui apporter l'énergie dont il a besoin. Extraordinaire d'ailleurs, communion avec les choses. Donc, est-ce que nous réalisons cela? Vous voyez, il ne s'agit pas de faire autre chose, simplement d'approfondir notre regard pour voir combien les choses nous sont données. J'aime bien le dire comme ça, être présent au présent du présent. Être présent, c'est-à-dire, il y a trois sens au mot présent. Être présent attentif au présent, c'est-à-dire l'actualité du présent, c'est-à-dire le don. Être présent au présent du présent. Je pense que c'est une des attitudes les plus profondes, sinon la plus profonde, du chrétien. Là, nous avons parlé de la présence à la nature. Il y a bien sûr bien d'autres exemples à donner. Je suis sûr que vous en avez un certain nombre. Ensuite, le don de la personne. Avec beaucoup d'actions de grâce, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps un texte de Jean-Paul II totalement inconnu. Pour cause, il se trouve dans ce qu'on appelle les Actes apostoliques et Cédis, après sa mort, donc il a été publié, donc qui sont les actes, qui sont les publications officielles, les actes du pape, en 2006, en polonais, et écrit après tous les autres. Donc vraiment le texte perdu. Heureusement, j'ai réussi à trouver une traduction en italien, je ne parle pas polonais. Et ce texte, qui s'appelle Méditation sur le don des intéressés, un petit bijou, commence par un partage d'expérience de notre pape polonais. Tout jeune prêtre, dit-il, il a appris de son père spirituel que tu sais quand tu rencontres quelqu'un, est-ce que tu as conscience que cette personne que tu rencontres t'est envoyée par Dieu ? Et Jean-Paul II va traduire cela, parce qu'il a petit à petit médité cette réflexion de son père spirituel, il l'a résumé dans la formule très concrète suivante qui pour moi est une parole de vie. Dieu t'a donné à moi. Dieu t'a donné à moi. Cette parole, pour Jean-Paul II totalement centrale, vient de la conscience suivante. Quand il rencontre quelqu'un, la personne qu'il rencontre, il n'y a pas droit. Je n'ai pas le droit que quelqu'un vienne à moi, fortiori, se donne à moi. Et Jean-Paul II va se fonder sur ce texte qu'il a tellement et si souvent médité de Genèse au chapitre 2. Quand Dieu a créé la première femme, d'abord arrangé pour que l'homme dorme, pour qu'il ne s'imagine pas que c'est lui l'auteur de toute chose. Ça fait du bien pour nous les hommes de nous rappeler cela. Donc ça nous rappelle la création. Mais après, la femme, mais ça vaut pour tout être humain, est un être tellement digne que l'homme n'en étant pas digne, il a fallu que Dieu lui-même la présente à l'homme. Et il en est ainsi de tout être humain. Est-ce que nous avons conscience que lorsque nous rencontrons quelqu'un, c'est Dieu lui-même qui le donne à nous ? Dieu t'a donné à moi. Prendre conscience de cela, c'est voir dans chaque être humain qui vient à nous comme le don de Dieu ou Dieu lui-même qui s'attarde et qui vient là, en personne, dans cette personne. Donc, là encore, si nous prenons conscience de cela, c'est vrai que ça changera un peu notre regard sur ce voisin un peu bruyant, sur ce collègue un peu procrastinant, etc., etc. Donc, prendre conscience que derrière tout tu humain, il y a un tu divin qui nous le donne. Troisième don, là encore pour incarner cette reconnaissance que derrière tout don, il y a le donateur. Le don du temps. Là, je vais vous lire un petit passage merveilleux de Madeleine Delbrel, dont le procès de béatification est ouvert. Elle parle de la journée. C'est chaque matin, notre journée entière, que nous recevons des mains de Dieu. Dieu nous donne une journée préparée pour nous, par lui. Il n'y a rien de trop et rien de pas assez, rien d'indifférent et rien d'inutile. C'est un chef-d'œuvre de journée qu'il vient nous demander de vivre. Nous la regardons comme une feuille d'agenda marquée d'un chiffre et d'un mois. Nous la traitons à la légère comme une feuille de papier. Si nous pouvions fouiller le monde et voir depuis le fond des siècles cette journée s'élaborer, se composer, nous comprendrions le poids d'une seule journée humaine. Est-ce que nous mesurons donc ce temps présent? Il n'est pas du tout coupé, contrairement à ce que dit Eckhart Tolle, mais au contraire s'adosse à tout le temps qu'il a préparé, le prix inouï de chaque instant. Avec quelle intensité vivons-nous cela? C'est tout le poids de l'expérience. Avec quelle intensité vivons-nous cet instant maintenant? Je sais bien que les conférences, c'est comme disait le curé d'Ars, les conférences, c'est comme les homélies. C'est le moment du repos. Donc, et vous voyez, nous qui courons après le temps, je me rappelle encore la réflexion de cet évêque qui disait au jeune prêtre qui venait d'ordonner, tu sais, si Dieu a créé le temps, il y en a assez. Et oui, nous qui passons notre temps à courir après le temps. Attendez. Le temps et l'espace, c'est un peu le même combat. Alors vous savez, dans l'espace, il y a environ 100 milliards de galaxies. Chacune contient entre 100 et 200 milliards d'étoiles. L'étoile la plus proche, Alpha du Centaure, est à 4,3 années-lumière, c'est-à-dire environ 40 000 milliards de kilomètres. De l'espace, je crois qu'il y en a assez. Vous pensez que le bon Dieu a fait moins pour le temps que pour l'espace ? Donc, accueillir chaque instant comme unique et surtout comme donné par Dieu. Donc, reconnaître. Et enfin, troisième acception du terme reconnaître, remercier. Mes amis, si vous ne retenez qu'une seule chose de ce que je vous ai dit aujourd'hui, j'espère que ce sera ce que je vais vous dire maintenant. Remercier. La gratitude, on devrait dire la gr-attitude, hein, c'est l'attitude la plus, d'abord je crois, la plus profonde du cœur de l'homme, et de surcroît la plus profondément harmonisante. On a fait des études, il y a un spécialiste américain de la gratitude qui s'appelle Robert Emmons, qui a passé sa vie, il y a quantité d'études, donc on a montré que les effets relationnels sont extraordinaires, les effets intérieurs psychologiques sont extraordinaires, mais même les effets physiologiques. C'était juste une expérience qu'il a faite tout à fait étonnante, il s'est dit, mais pour montrer que la gratitude est vraiment aussi extraordinaire, il faudrait que je trouve une communauté où les personnes vivent à peu près la même vie et les mêmes activités, comme ça on pourrait faire des comparaisons. Il faudrait trouver des femmes, parce que c'est un peu plus sensible, mais des femmes qui aient le même nombre d'enfants, parce que l'enfant apporte tellement de gratification qu'il faudrait être bien certain. Donc finalement, il n'y a qu'une seule manière. Il faudrait trouver finalement des communautés de religieuses. Et comme ça, on pourra comparer celles qui ont la gratitude, celles qui n'ont pas de gratitude. Et, miracle, dans le Minnesota, ils ont trouvé non seulement une communauté de religieuses qui vivait là, mais en plus qui, depuis 150 ans, écrivait une longue lettre quand elle rentrait. Puis à l'âge de 40 ans, et enfin à l'âge de 70 ans. Et dernier point, en plus, on a les bulletins médicaux de toutes les religieuses, depuis 150 ans. Donc le chercheur, avec son équipe, a pris toutes ces lettres et a fait étudier par des sémanticiens, des spécialistes de la langue, le poids des mots impliquant un regard positif sur la vie, la gratitude, etc. Les résultats sont sans surprise. Les religieuses qui vivent dans une attitude d'accueil positive sont en bien meilleure santé. Mais plus que cela, on a pu mesurer quantitativement le gain concret que ça apportait, à savoir que celles qui vivaient dans la gratitude vivaient 7 années de plus que les autres. Ça promet, vous voyez. Et 7 années de vie, de qualité. Ce n'est pas seulement la quantité qui est touchée. Donc, la gratitude qui nous fait reconnaître ce que nous devons, non seulement change nos relations, mais en plus change notre être lui-même. Que vous dirais-je par rapport à cela ? D'abord, c'est l'attitude la plus profonde du cœur humain. Une citation parmi mille, hein, « Rendre grâce à Dieu en toutes choses », hein, 1 Thessaloniciens 5, 18. « Que nos vies deviennent Eucharistie », c'est la parole d'un prêtre avec qui j'étais au séminaire, qui d'ailleurs a donné sa vie, c'est un prêtre de Lourdes, le père Cab. Il avait pris comme devise que ma vie, on traduit nous la parole de saint Paul, que ma vie soit action de grâce, en grec c'est Eucharistie, action de grâce, et de fait il a tout donné. Mes amis, donc, si nous pouvions planter au cœur de notre cœur cette attitude intérieure constamment, on a montré là encore scientifiquement que poser tous les jours 3 petits actes de gratitude entraîne des bénéfices physiologiques considérables. Si ça peut vous motiver, tant mieux. Hein, 1 petit acte le matin, 1 le soir, et puis 1 pendant la journée. Il y a des personnes, quand elles se lèvent le matin, mais la vie est tellement noire, moi je dis, vous ne vous levez pas, vous ne sortez pas de votre lit tant que vous n'aurez pas trouvé une raison pour remercier. Parce que de fait, alors c'est vrai qu'au début, elles mettent parfois une demi-heure, après ça, ça va plus vite. Hein. Parce que dans cet acte-là, qui n'a rien d'automatique, je prends conscience qu'un bien m'est donné. Il n'y a pas de vie où le bien ne traverse pas notre vie. Il n'y a pas de vie où le bien n'est pas présent. Et donc, je prends conscience de ce qui m'est donné, et de ce fait-là, mais c'est obligatoire. Hein. Saint Thomas d'Aquin disait que la joie, c'est le sentiment par lequel je vis, j'éprouve le bien qui m'est présenté. Hein. La joie vient quand un bien m'est présenté. Si mon cœur est triste, c'est que j'aligne devant mes yeux autant d'événements qui sont déshumanisants et aliénants. Donc, la gratitude est une attitude qui obligatoirement introduit la joie au cœur de ma vie. Donc, et si nous faisions la chose suivante, un petit journal de gratitude, certains le conseillent, moi je vous avouerai que pendant tout un temps, j'ai arrêté de le faire, mais j'ai fait ça pendant des mois, j'ai pris un petit carnet, ce que je marquais dans la colonne, dans la colonne de gauche, les choses que je demandais au bon Dieu, la colonne de droite, les choses que je recevais, les choses très très concrètes. J'étais très stupéfait de voir que le bon Dieu répondait quasiment systématiquement pour les petites choses. Et donc, autant de raisons d'action de grâce. Je conclue. C'est cela, hein ? Il faut que je conclue. Alors, nous avons commencé par notre cher pape François, finissons par lui. Et pour aller, donc bien évidemment, je pense à sa belle exhortation Evangelii Gaudium, que j'étais heureux de voir qu'il parle. Le mot reconnaissance dans le texte français est présent 71 fois. Donc, à différents titres, notamment comme pape jésuite, c'est pas par hasard, parce que la reconnaissance est au cœur de la spiritualité ignatienne. Je vous lis même le tout début. Ça vous rappellera quelque chose de la conférence. Le grand risque du monde d'aujourd'hui, dit-il, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres, les pauvres n'entrent plus ou plus. On n'écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour, l'enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. Même les croyants courent ce risque certain et permanent. Beaucoup y succombent et se transforment en personnes vexées, mécontentes, sans vie. Et je vous lis un dernier passage du pape argentin. Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de carême sans Pâques. C'est joli ça, un air de carême sans Pâques. Cependant, je reconnais que la joie ne se vit pas de la même façon à toutes les étapes et dans toutes les circonstances de la vie, parfois très dures. Elle s'adapte et se transforme et elle demeure toujours au moins comme un rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle d'être infiniment aimé au-delà de tout. Je comprends les personnes qui deviennent tristes à cause de graves difficultés qu'elles doivent supporter. Cependant, peu à peu, il faut permettre à la joie de la foi de commencer à s'éveiller comme une confiance secrète mais ferme, même au milieu des pires soucis. Et il cite un passage des Lamentations, je termine avec cela. « Mon âme est exclue de la paix, j'ai oublié le bonheur. Voici ce qu'à mon cœur je rappellerai pour reprendre espoir. Les faveurs du Seigneur ne sont pas finies, ni ses compassions épuisées. Elles se renouvellent chaque matin, grande est sa fidélité. Il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. »